Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur le divan, bien que symbolique avec moi. Mon nom est Tania Allaire. C'est officiellement le tout premier épisode, en fait le premier vrai épisode, je dirais. Donc, c'est plus que tout nouveau. Hein? Je commence et j'apprécie grandement votre patience et votre indulgence. En principe, je devrais devenir meilleur sur toute la ligne. Donc, c'est mes débuts. Je vous ai parlé un peu durant le trailer du pourquoi j'ai décidé de commencer ce podcast. Je vais probablement vous reparler encore et encore de ces raisons un peu partout, saupoudrées dans chacun des épisodes. Mais aujourd'hui, je m'étais dit qu'on pourrait commencer par le commencement, donc commencer par les présentations. Je vais vous parler un peu d'où je viens en espérant que ça vous rejoigne. Si ça vous intéresse de me connaître un peu plus, de me rencontrer, alors tant mieux, merci beaucoup. Et sinon, pas de trouble, évidemment, vous allez simplement passer au prochain épisode. Ce sera vraiment un épisode, tada, voici qui je suis et pourquoi je crois être ainsi. Éventuellement, je devrais vous offrir la possibilité de me poser des questions plus spécifiques sur moi, sur les expériences que j'ai vécues, que je vis encore aujourd'hui, des trucs de coaching et de thérapie. Bien sûr, c'est pour tout ça que je suis ici, donc ça me fera un plaisir de vous répondre. Mais pour l'instant, j'ai comme dressé un portrait de... En fait, ce qui moi m'intéresserait de savoir ou de connaître des gens qui sont derrière les podcasts que je préfère, que j'écoute au quotidien, pour vous offrir l'équivalent de ce même portrait sur moi. Donc, si la conversation vous intéresse, je vous invite à rester. Je vous dirais merci beaucoup d'être là et sur ce, bon épisode. Alors, maintenant, 44 ans, mère de 3 enfants, ça je pense que je l'avais dit, ça c'est pas mal la base de qui je suis, et probablement ce qui est le plus important de ce que je suis, c'est être maman de ces 3 enfants-là, Sean, Julian et Sophia. Je suis aussi coach de vie et thérapeute. Et tranquillement, pas vite, c'est ce que j'aimerais faire de mon temps plein. Je travaille présentement pour une compagnie télécom. Quand je dis présentement, c'est un peu une menterie parce que je travaille pour cette compagnie depuis 16 ans, genre. Donc, ça fait... c'était supposé être temporaire, ça ne l'est pas du tout. On va commencer à se l'admettre. Rendu à 10 ans, je pense que tu dis. Je pense que je travaille là pour vrai. J'ai tranquillement, pas vite, fin 2021, entre autres... à cause de tout ce qu'on voit, les 2 dernières années qu'on a passées qui sont, ça là, juste comme pas de bon sens, et que j'ai vu qu'il y avait tellement de gens qui souffraient, je pense que tranquillement, pas vite, la piqûre de recommencer, d'aider les gens est revenue. Je me sentais beaucoup plus solide, beaucoup plus en forme. Je vais en parler un petit peu plus de qu'est-ce que je veux dire là-dedans dans les minutes qui suivent. Et j'ai décidé de recommencer à coacher, donc réouvrir ma pratique de coaching. Donc, c'est ce que je fais depuis janvier 2022. J'ai recommencé. Je suis super fière d'en être là. J'ai travaillé très, très, très fort pour pouvoir revenir là. Donc, je me l'accorde haut la main. Et du coup, je pars ce podcast. Je travaille sur la création de cours de coaching en ligne. Je travaille sur faire des méditations guidées. Bref, la piqûre était plus forte que jamais. Et j'ai comme explosé dans un élan de créatif que j'adore d'ailleurs et qui m'amène je sais pas où, mais je suis... Je suis partante, j'ai les 2 pieds dedans et j'avance à ce niveau-là. Donc, 44 ans, c'est du temps. Je me dis pas vieille, mais pas du tout, du tout. Mais en même temps, j'en ai vécu des affaires. Je dirais, mettons qu'on commence au début, je veux pas que ça soit plate, donc je vais passer vite peut-être au niveau de l'enfance. Enfance, je dirais jusqu'à 5 ans, ben de l'allure. Ben de l'allure, j'ai des parents assez solides quand même qui ont su, je crois ça fermement pour tous, qui ont su me donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré le fait que j'aurais peut-être voulu plus. Je sais très bien que ces deux êtres ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et jusqu'à 5 ans, ma vie était quand même assez bien, je dirais. Née à Saint-Léonard, bonjour à ceux qui m'écoutent pas potentiellement de Saint-Léonard, très belle ville. Et à 5 ans, je suis déménagée sur la rive sud avec ma maman. Dans le fond, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Pas été vraiment au courant de ce qui se passait. On peut s'imaginer un peu une scène de du jour au lendemain, il y a deux camions de déménagement qui partent chacun de leur côté et papa est juste plus là. En toute franchise, papa n'était pas souvent là, même avant. J'en parle très, très, très bientôt. Mais là, papa était vraiment plus là. Et j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance du tout, mais j'ai vraiment pas de souvenirs de cette période-là. Mais je peux évidemment m'imaginer que j'étais petite fille à papa, j'adorais mon papa. C'est sûr que ça a été de loin la plus grosse première blessure que j'ai vécue. Malgré le fait que je comprends absolument tout à fait cette séparation et elle se devait de se faire, peut-être même avant qu'elle s'est faite. Mais voilà. Je dirais que je résumerais peut-être rapidement mon enfance. Je le dis souvent, tu sais, c'est pas l'enfance que tu aurais choisi dans le pamphlet. Je trouve ça cute comment je le dis. C'était pas une enfance facile du tout. Et en même temps, bon, d'un, je dis ça, puis en même temps, je crois qu'on vient vivre la vie qu'on est supposé vivre pour se rendre où on est supposé se rendre et pour surtout probablement accumuler les expériences qui nous permettent d'aider les gens qu'on est supposé aider, de contribuer dans une certaine façon qui nous est tous propres. Le gros de mon travail, que ce soit en coaching, que ce soit en enseignement, le podcast, ça va être ça, c'est je crois qu'on a tous quelque chose qu'on est supposé vivre, donner, offrir à ce monde. Et plus il y a de gens qui croient à ça, donc ça part de se croire qu'on a une valeur, en fait, qu'on a quelque chose à contribuer. Plus il y a de gens qui vont voir ce de la même façon, qui vont s'accorder cette importance, cette signifiance, je dirais, et la mettre à profit. Et sky's the limit, là, je veux dire, dans le sens que. Et on n'a jamais peut-être eu plus besoin de gens qui se connectent à leurs valeurs et qui commencent à retrousser les manches et s'entraider. Donc, j'y crois. Donc, à quelque part, c'est bien beau, ma petite phrase, elle n'aurait pas choisi dans le pamphlet. C'est comme ma phrase que je sors d'un party, ma phrase plate. Mais en même temps, je crois que j'ai dû la choisir. Je regrette rien. Mais bon, 5 à 7 ans, on voit pas beaucoup papa. À 7 ans, un secret de famille assez explosif. C'est peut-être un peu dramatique. Vous allez voir que je suis dramatique. Mais c'est pas une petite affaire. Mon père nous apprend que moi qui croyais que j'étais enfant unique, en fait, c'était pas le cas. Dans le fond, il nous admet avoir deux autres filles. Donc, moi j'ai 7 ans, j'apprends que j'ai une demi-sœur qui a aussi 7 ans. On a 3 ans, 3 semaines, excusez, de différence. Oui, la mathématique est bonne. Et que j'ai une autre grande sœur qui, elle, a 19 ans. Si mon calcul est bon, on a 12 ans de différence. Oui, c'est cela. Donc, ça a été la deuxième grosse blessure. Sur le coup, en toute franchise, 7 ans, tu te fais dire, hey, t'as des sœurs, c'est extraordinaire. Et donc, moi, je voyais ça sublime, jusqu'à temps que je me rende compte que ma mère n'est pas contente, elle. Je ne suis pas trop sûr de pourquoi, mais elle a pas de fun, elle a pas de fun du tout avec ça. Ça m'a pris des années avant de comprendre, évidemment, qu'est-ce que ça voulait dire, que j'ai non seulement deux demi-sœurs, mais une qui a exactement la même âge que moi. Donc, bon, trahison, sentiment de confusion, peu m'expliquer parce que, bon, je suis trop jeune pour comprendre, mais là, c'est sûr que, t'sais, à 7 ans, ça fait 2 ans que mes parents sont séparés, je commence à avoir un semblant, peut-être, de comprendre ce qui se passe pour finalement me rendre compte. Oups, non, ok, puis on retombe, puis on recommence. Ça n'a pas été facile. Ma grande sœur, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue une fois à ce moment-là, puis après, je ne l'ai pas revue pendant très longtemps. Je vais vous en reparler, parce que ça aussi, il y a comme un dénouement qui s'est passé cette année qui est extraordinaire. Mais ma demi-sœur, on s'est vus ici et là. Mon père n'était pas très présent. Non plus. Là, je me rends compte que je fais attention. Je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai le droit de vous dire? Qu'est-ce qui pourrait choquer papa, maman, ma soeur? Bon, je vais essayer de partager mon histoire sans trop potentiellement offusquer les gens qui font partie du cinéma ou du théâtre qu'est cette histoire. Mais bon, mon père, ici et là, oui, nous accueillait chez lui et on a essayé de tricoter quelque chose, une espèce de semblant familial. Pas évident parce que, bon, à 7 ans, tu rencontres cette fille qui, dans le fond, je voyais comme une compétition, c'est sûr. Je veux dire, moi, je suis la petite fille à papa, là, c'est mon papa. Là, tout d'un coup, ce n'est pas mon papa. Faut que je le partage avec quelqu'un qui a exactement la même âge que moi. Et pas évident, pas évident. Ça crée comme des blessures, je dirais, là, au niveau de, bon, sentiment d'injustice, sentiment de bon, et où ma place et qu'est-ce que j'ai, je sais pas, qu'est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai le droit de m'admettre en colère malgré le fait que c'est pas gentil, il faudrait que je sois fine avec cette fille-là qui arrive dans ma vie tout d'un coup, bon, t'sais. Puis, je veux dire, plus vieille, je me rendais compte à quel point que c'était pas évident comme situation, mais à 7 ans, t'as pas les mots, j'aurais eu besoin de, mettons, mes parents qui m'explique, bon, c'est peut-être pas évident, voici, ta. Mon père, dans probablement une culpabilité de ce qui se passait, a juste pas voulu ouvrir cette porte-là. Puis ma mère, ben, vivait quelque chose de, vous pouvez probablement vous imaginer, vraiment pas évident. Donc, c'était pas mal du, on fait comme si de rien n'était. La la la, ça, c'était le mot d'ordre de mon enfance. Je sais que j'en rejoins en parlant de ça, ce genre de secret familial qui fracasse une famille, mais qu'il faut certainement pas en parler. On met un sourire. Le nombre de photos que j'ai, photos dans le temps, là, qu'on a les albums photos que je me vois faire ce genre de sourire fake-là, tu sais, puis que tu te dis, oh, elle est pas contente, cette fille-là, là. Elle a l'air, mais pas contente, pas tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis enfance pas évidente, et je dirais au moins dans le. Du côté de mon père, ce que ça a fait, en tout cas pour moi, c'est ben, je vais devenir parfaite. Si je suis parfaite à ses yeux, donc pour moi, ça voulait dire les meilleures notes à l'école que je pouvais avoir, n'importe quel règlement à la maison qu'il pourrait avoir, puis mon père avait des règlements, disons, très stricts et très restrictifs, je vais corroborer, je vais tout faire ce qu'il me demande, jamais faire ce qu'il me demande pas. Être polie, être charmante, être drôle quand il file pas, je lui remonte le moral. Écoute, je vous le dis, puis je sens la lourdeur dans mes épaules. C'était ça. C'était, j'ai pas le droit d'avoir de failles ou faire des erreurs parce que je suis tout d'un coup dans la plus grande compétition de ma vie et il faut que je gagne, parce qu'on parle de, je dirais, à cet âge-là, c'est une survie psychique, là, c'est ton parent. Mêlons le complexe d'Édipe dans tout ça, là, pour ceux qui se connaissent un peu, je veux dire, Freud aurait du fun, dans le sens que c'était complexe et c'était vraiment pas évident. Et c'était devenu extrêmement lourd. Honnêtement, je pense que je suis rendu à 21 ans avant que je me rende compte que cette période-là était juste folle, puis que je me suis complètement oublié, et que là, rendu à 21 ans, je fais une parenthèse, je vais revenir sur mes pas un peu. Rendu à 21 ans, à un moment donné, t'as tellement fait de détours pour plaire à quelqu'un d'autre que tu sais juste plus t'es qui. C'est aussi simple que ça. Je ne savais pas si j'étais qui, je savais pas qu'est-ce que j'aimais, je savais pas qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui me dérangeait, parce que pendant tout ce temps-là, ça n'avait aucune importance. L'importance, c'était que mon père soit content. L'importance était que je ne fasse pas de vagues. L'importance était qu'il me préfère, qu'il me choisisse, en fait. Et on va en parler souvent, je pense, de ce genre de blessure de l'enfant qui se transforme dans des relations, vous pouvez vous imaginer, pas super satisfaisantes et bonnes de part et d'autre, parce que ça part tout croche, si on veut. Donc, ça, c'est mes 7 ans, je dirais, jusqu'à T'sais, jusqu'à l'adolescence, là, c'était ça. J'avais un père qui nous voyait quand ça l'arrangeait. Et si ça l'arrangeait pas ou s'il changeait d'idée, ben je le voyais pas. Donc, blessure de l'abandon intense, blessure du rejet, trahison, tu sais, c'était intense et j'avais pas le droit de le vivre difficilement, faut pas oublier. Donc c'est tout ça ensemble comme cocktail, c'était assez rough. Et c'était pas évident pour moi en plus de regarder cette autre fille qui est la seule personne de ce monde qui comprend ce que je vis et de voir une alliée parce que on est en compétition. Donc, je l'ai aimée tout de suite. Ma sœur, c'est un cœur sur deux pattes, c'est incroyable, plus que moi, là. Donc, il me semble que mon cœur est pas pire. Mais je voyais en elle la plus grande des rivales et ça l'a créé en moi un doute, comme difficile de faire confiance quand elle dit quand même pour vrai, pense pas, tu dois être en compétition contre moi aussi, tu me dis ça pour que je baisse mes défenses, c'est extrêmement malsain, extrêmement malsain. Et bon, rendu à l'adolescence, période. Est-ce qu'il y en a qui m'écoutent, qui ont aimé leur adolescence? Écrivez-moi si oui. Ça doit arriver. Il doit y en avoir qui se disent, non, moi j'ai eu un fun noir. Moi, non. Je referais pas ça pour toute l'heure du monde. Oh, quelle période rough. Quelle période rough. Mon primaire, je l'ai passé dans un pensionnat à Saint-Bruno. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, mon père est immigrant. À 20 ans, je pense, au début vingtaine, il est arrivé ici de la Jamaïque. Mon papa est noir, 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 noir. Ma mère, blanche, 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 québécoise. Ma mère, a grandi sur la rue Drolet à Montréal. Blanche d'ici, 17, là, tu sais. Donc, moi, mulâtre, le mix des deux. Pensionnat Saint-Bruno, pas tant de gens qui me ressemblent, disons ça comme ça. Je pense qu'on était peut-être trois dans mon année. Je me souviens de Karen et Mathieu, si jamais ça sera à vous. Allô? C'était vraiment très aidant de vous avoir avec moi, parce que sinon j'aurais été tout seul. Il y en avait peut-être d'autres, là, mais honnêtement, je pense. On n'était vraiment pas beaucoup. C'était très, très, très blanc. Une école avec des sœurs aussi, tous très blanches. Donc, j'ai pas souffert de racisme de façon extrême, du moins, en fait, pas du tout. Mais disons que de grandir dans un milieu où t'as pas de miroir vraiment, dans le sens que, bon, la personne proche de moi qui me ressemble, c'est mon père, puis il est à peu près pas là. Donc, famille de ma mère extraordinaire. Je pense que je vais faire un épisode juste là-dessus, là, parce que c'est beaucoup. Quand je dis là-dessus, c'est sur mon rapport à pas avoir l'impression que j'ai une place pas mal n'importe où j'étais, là. Mais c'est ça. Ça a été quand même difficile d'arriver. De un, je suis encore prise dans le pattern de faut que je sois parfaite, faut que je sois gentille, la bonne petite fille et tout qui fait les bonnes affaires. Mais en plus, d'avoir très peu de gens autour de moi qui me ressemblent a été difficile. Je me suis senti comme un vilain petit canard, comme tout le temps, partout. Donc, on rajoute ça dans le cocktail. Malgré le fait que super bonne école, j'ai eu des super bons profs et je me suis senti inclus quand même, ça reste que c'était toujours que les gens autour de moi m'incluent. Fallait qu'il y ait cette ouverture, autrement dit. C'est pas juste, évidemment, que je fais partie, c'est juste, est-ce qu'on va m'accepter ou pas tel que je suis, parce que je suis tellement clairement différent. Puis moi, je suis plus grande que tout le monde, plus bien portante que tout le monde, disons. Tu sais, les cheveux pas comme tout le monde. T'sais, donc, c'était vraiment. J'étais bien, 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 bien différente. Fait que ça aussi, rajouté au cocktail, j'ai vécu ça assez difficilement. Tout ça pour dire que rendu à l'adolescence, là, évidemment, crains qu'on sait. Là, je suis rendu à Saint-Hubert. Il y a un petit peu plus de gens qui me ressemblent, mais on est loin d'être la majorité, là, vraiment. Mais là, je me sens. Je me souviens que, bon, l'adolescence, pour moi, c'était bien dark. Là, j'ai commencé à écouter The Cure, puis Depeche Mode, puis écoute des groupes malades. De la musique extraordinaire, mais écoute, ouf, ça a comme juste rajouté à la mélancolie inimaginable que tu vis, on dirait, qu'on te sert, que la vie te sert automatiquement quand tu arrives à 12-13 ans. Puis je me souviens de m'être dit, tôt là, dans l'adolescence, j'aimerais ça être dark moi aussi. J'aimerais ça avoir vécu des trucs rough, puis d'avoir comme un, t'sais, une lourdeur dans l'âme, puis d'écrire de la poésie qui arrache le cœur des gens. Mais je me suis dit ça ridiculement, comme si, je sais pas, comme je souhaitais ça moi là. Puis à un moment donné, rendu à 16 ans, je pense peut-être, ça a comme fait, ooh! J'ai pas besoin de vouloir être dark, hein. Il y a comme. C'est là que j'ai commencé à reconnaître cette genre de noirceur, si on veut, qui m'habitait. Des problèmes avec l'anxiété assez intense. Tout d'un coup, écoute, un exposé oral. Je peux pas croire qu'on fait encore ça, là. Attends, je vais faire une parenthèse. Faut faire des exposés oraux, dans le sens qu'il faut que les enfants soient capables de s'exprimer. Et même seul devant un groupe, c'est super important au niveau de bâtir sa confiance en soi et tout ça. Mais je veux dire, on est tellement qui sont traumatisés après ça, il y a une meilleure façon de le faire. Moi, l'exposé oral qui s'en vient, je suis malade pendant une semaine. C'était l'enfer pour moi, l'exposé oral. Je les ai tous haïs. On dirait que je m'en souviens encore, comme si c'était hier, là. Heureusement que j'ai cheminé à ce niveau-là. Mais je vivais de l'anxiété juste d'aller à l'école. Je vivais de l'anxiété juste si quelqu'un qui faisait pas partie de mes amis proches m'approchait pour parler. Je faisais de l'anxiété. Je faisais de l'anxiété tout à tout à tout à tout à. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est installé que j'aurais pas eu de mots tout à fait à ce moment-là. Faut pas oublier que l'Internet s'en vient. Donc pour ceux qui m'écoutent qui sont peut-être plus jeunes, juste peut-être. Étirer votre connaissance à ce niveau-là, si vous pouvez vous imaginer. Je peux pas juste googler je fais le pas, là. On est à une place où c'est des livres, où c'est d'en parler, puis je sens pas que j'ai vraiment le droit d'en parler, puis je suis pas super fier de ce qui se passe en plus. Puis aussi, le feeling de, ben, ça va passer, là, je présume. Bon. Mais non, ça passait pas. Bon, j'ai jamais été diagnostiqué. Je vois pas qu'est-ce que ça aiderait là, de m'afficher comme si j'étais officiellement en dépression à l'adolescence. Faut pas oublier aussi que la période en soi est tellement difficile que peut-être que c'était juste parce que l'adolescence est tough, puis c'est tout, là. Mais je l'ai trouvé rough. J'ai trouvé ça rough. Je pleurais beaucoup et souvent sans larmes. Pour ceux qui connaissent c'est quoi cet état-là, pleurer par en dedans, là. Une espèce de feeling de je veux que ça arrête, là. J'ai le goût d'être assis dans le coin, dans une pièce sombre, puis qu'on vienne me chercher quand ça va avoir passé. J'en ai déjà parlé à quelques rares personnes. Je me souviens à l'école où j'allais, j'habite à Saint-Hubert, donc André-Laurendeau, pour ceux qui pourraient peut-être résonner à ce niveau-là. J'allais à André-Laurendeau, et je me souviens encore la porte de la psychologue où était située. Et je me souviens qu'en secondaire 2, où ma case est placée, je suis en biais de cette porte-là. Le nombre de fois que j'ai dû regarder la porte en me disant « Ok, aujourd'hui je cogne, aujourd'hui j'y vais, aujourd'hui j'y vais, c'est sûr. » Et je suis jamais allé. Je suis jamais allé. Pour plusieurs raisons. Des fois, c'est que finalement, ça allait un peu mieux. Puis je me disais, bon, correct, finalement, c'est passé. Des fois, je me rendais tellement proche de cogner, puis la chienne me pognait, puis je me disais, puis je finissais par, non, finalement, je vais bien, finalement, ça va. Et des fois que je me disais, écoute, j'en shake tellement que j'ai peur d'aller cogner à cette porte-là. J'en shake, j'aurais pas la voix de juste dire à l'aide ou je. Donc, je suis resté là-dedans, puis je me disais que ça allait passer. Parenthèse, ça aussi, je vais revenir souvent là-dessus. Pour ceux qui m'entendent, qui font ouais, ça me parle. Pour toutes les années que j'ai souffert tout seul, marche pas. Limite. Je sais que c'est bien plus facile dit que fait, là, mais si jamais ça vous tentait de faire autrement, prendre n'importe quelle autre stratégie, marche pas le faire tout seul, du tout, du tout. C'est juste plus long, ça fait trop mal. Lever la main, demander de l'aide, surtout à l'adolescence. My God, vous êtes tellement nombreux à souffrir en silence et on le sait, je veux dire, il n'y a pas un adulte qui ne sait pas là, que c'est difficile. Donc, allez cogner à la porte. Pour de vrai ou symboliquement, faites ce qu'il faut. Là, il y a plein de façons qu'on peut être aidé. Encore là, dire que je regrette ma façon d'avoir réagi à certaines choses, ça donne pas grand-chose. Non, là, mais. Ah! Ouf. T'sais, parce qu'en plus, t'as tes cours, là. Je veux dire, t'as une job à faire. À ce moment-là, on nageait. Donc, je nageais en compétition. J'étais dans l'eau, puis dans le gym, 2, 3 heures par jour. Ce qui m'aidait, d'ailleurs, heureusement, que je bougeais mon corps, puis que je faisais quelque chose qui m'oxygène, puis qui me ramène à mon corps, mon senti, qui m'amène à vivre des fiertés, puis heureusement, là, heureusement. Et de rencontrer les meilleurs amis que j'ai jamais eu de ma vie, que j'ai encore à ce jour, des décennies plus tard, d'ailleurs. Et même mon chum. Donc, heureusement, c'est une partie qui a sauvé ma vie, c'est d'avoir eu une activité que j'aimais, dans laquelle j'étais relativement bonne pour me garder là, présente, puis pas toujours dans ma tête, en fait. Parce que, bon, je suis quelqu'un de très sensible, mais ça paraît pas. Donc, c'est extraordinaire, ça, comme deux choses jumelées. Parce que toi, tu le sais pas, puis les gens le savent pas, c'est parfait. De un, de deux, hyper rationnel. Donc, moi, les problèmes que j'avais, je pars dans ma tête, puis je mâche, puis je mâche, puis je mâche, puis je revire, puis j'essaie de faire fitter ça dans des boîtes, puis d'essayer de comprendre toute seule, tout le temps. Ça non plus, c'est pas génial. Et je suis assez pessimiste. Je travaille là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire maintenant. Donc, n'importe quel problème est beaucoup plus gros, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique que besoin de l'aide. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc, tout ça pour dire que j'espérais avoir quelque chose qui ferait que je m'explique pourquoi j'aime tant les poèmes de Leonard Cohen. Puis là, tu fais comme, ah, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose, puis là, je sais pas quoi faire avec. Puis, je vous ai parlé de mon père rapidement. Ma mère vivait des trucs difficiles dans tout ce qu'on, dans tout ce qui a été déclenché dans ma famille, c'est clair. Je la voyais souvent comme elle très émotive, très sensible. Donc, moi, j'ai décidé, ça veut dire fragile. Donc, je peux pas lui demander de l'aide. Je peux pas rajouter à qu'est-ce qu'elle vit déjà. Je vais m'auto-suffire. Je sais que ça aussi, ça doit en rejoindre quelques-uns. Une autre stratégie qui est pas géniale, surtout pas quand c'est tes parents. Mais bon, ça a été mon choix. Donc, je suis sûr que si j'avais levé la main et dit à ma mère, gars, je sais pas ce que j'ai, mais ça va pas, là, puis j'ai besoin de ton aide, j'ai vraiment besoin de ton aide, c'est sûr qu'elle m'aurait aidé. Et j'aurais sauvé, je sais pas, des années, des années, des années de souffrance. Mais je l'ai pas fait. Et je comprends pourquoi je l'ai pas fait. Et voilà. Donc, je me souviens d'une scène plus tard. J'ai commencé à sortir avec le chum avec qui je suis présentement. J'avais 17 ans. Donc, ça fait vraiment une secousse. Ça va faire 27 ans. Ça a fait 27 ans qu'on est ensemble. Puis, je me souviens, lui, il travaille au Promenade Saint-Bruno. Puis, je vais le rejoindre pour dîner. Puis, je me souviens de cette scène-là parce qu'elle était tellement importante. Je me souviens que c'est la première fois que je me dis, je vais en parler à quelqu'un. Je sais pas comment, mais il m'aime. Je suis sûr qu'il veut mon bien. Lui a pas cette même fragilité-là. Je pense que je peux m'appuyer dessus. Je vais essayer. Je vais essayer pour la première fois de ma vie d'expliquer à quelqu'un en passant. J'ai l'air d'avoir toutes les sacoches, puis d'être au-dessus de toutes mes affaires. Puis moi, je me tape des 85 partout. Je nage. Je me suis rendu aux nationaux juniors. Je dis. T'sais, en apparence, sur papier, là, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Et je suis juste plus capable de vivre cette charade qui est encore plus lourde que ce que tu vis vraiment, mais en plus de pas pouvoir en parler à personne. Puis on est dans le food court, aux promenades, puis je file pas, puis je sais pas trop comment je me suis comme je me suis exprimé ou comment j'ai ouvert sa matière. Mais je me souviens de la façon que je lui ai dit, puis je trouve ça, je trouve c'est exactement ça. Ce que je lui ai dit, dans le fond, c'est j'ai l'impression que ma tête m'attaque. C'est ça que je lui ai dit. Quand je vais pas, on dirait que ma tête fait pire. Quand qu'il y a quelque chose qui me fait peur, on dirait que ma tête grossit cette affaire-là. Quand j'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler, on dirait que ma tête va toujours voir une autre affaire qui s'écroule aussi que j'avais oubliée. Puis c'est ça qui est le plus souffrant. C'est pas tant le vécu, mais le fait que c'est amplifié. Puis j'avais au moins eu cette conscience-là, je veux dire, à ce moment-là, j'ai 17 ans, c'est quand même pas pire. De me dire, c'est ça qui arrive, c'est ma tête qui m'attaque et je veux qu'elle arrête de m'attaquer, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire et je me dis que ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Et pauvre lui, je présume qu'il m'a regardé comme, qu'est-ce que je fasse avec ça? Lui, il a 19 ans, là. Et il avait été super sympathique. Il avait été empathique. Puis, il me semble qu'il m'avait pris dans ses bras, mais c'est clair qu'il se disait, c'est parce que, je peux pas prendre tout ça. Donc, faut que tu consultes, faut que tu fasses quelque chose. Puis, honnêtement, j'ai pas plus consulté. Hein. Fait que c'était comme, au moins, je l'ai dit à quelqu'un, au moins, il va comprendre quand je file pas ce qui se passe. Comprendre aussi que c'est pas de sa faute. Mais c'était un premier pas d'au moins le. C'est la première fois que je le disais verbalement, là, que je sortais de mon corps. Après, par contre, ça a été des années, des années, des années d'essayer de tricoter quelque chose avec ça parce que c'est pas assez juste de dire à quelqu'un, j'avais quand même besoin d'aide, mais j'avais quand même besoin de comprendre ce qu'il y en est. Ça a été très long avant de comprendre que cette anxiété, cette dépression, cette sensibilité, même pas tombée dessus de même. Ça a été très long avant de regarder mes parents, mes grands-parents et de comprendre, ah, OK, ça commence pas avec moi, là. C'est pas moi le début de la lignée, là. Il y a eu dans ma famille, côté de ma mère, beaucoup de cas de cas, j'aime pas ça dire ça, mais de gens qui avaient des troubles psychiques importants, des troubles relationnels importants et lourds, du côté de mon père aussi, et mes parents aussi. Et donc, en tant qu'enfant, de voir ça sans trop comprendre, on pense que on s'en sauve. Et non, non, vu l'ADN et non, vu l'environnement. On a tendance à évidemment prendre les réactions de nos parents pour les nôtres et d'essayer de naviguer à travers la vie de la même façon. Donc, maintenant, quand je regarde la map de mon enfance, tout fait du sens, toutes les cases sont là, tout fait du sens, tout est placé dans ma tête et tout. C'est juste que pour une raison qui s'explique tranquillement, il a fallu que ça s'arrête avec moi, dans le sens que j'ai souvent regardé mes parents en me disant, ça aurait été le fun que vous fassiez ce ménage-là vous-même avant de me faire. Tu sais, comme dans l'idéal, ça aurait été pas pire. Faire une partie du ménage, mettons, tu sais, regarder vos propres blessures familiales, puis tout ça. Tu sais, peut-être pas mes passés, bon. Puis, tu sais, je rigole parce que dans le fond, encore là, je reviens au fait qu'on fait tout ce qu'on peut. Puis mes enfants, je vous assure, vont aussi pouvoir me reprocher des grosses affaires. Puis moi, j'ai très peu d'excuses parce que je savais, je sais qu'est-ce qu'il y en est. J'ai étudié là-dedans, j'ai quand même fait les mêmes gaffes, ou en fait, certaines gaffes importantes avec eux, c'est clair. J'espère en avoir fait moins, puis évidemment qu'au moins là, j'arrive à pouvoir les accueillir dans ce qu'ils vivent individuellement à leur façon, puis c'est moins pire, mettons, comme bagage familial, mais on n'est pas parfait en tant que parent, malheureusement. Bon. Donc, ça venait de quelque part, tout ça. Tout ça culminé, là, si on veut, est devenu assez gros, mais bon, 17, 18, 19, à un moment donné, j'arrête de nager carrément, je commence à boire, heureusement, quelque chose que je déteste faire, fait que ça n'a jamais développé dans quelque chose qui aurait pu être catastrophique, parce que, petite parenthèse, je deviens dépendante d'à peu près n'importe quoi et super rapidement. Mais la boisson, je trouve ça infect. Je ne bois plus d'ailleurs et c'est pas parce que je suis alcoolique, c'est juste que mon corps fait comme. Donc, heureusement, au moins ça, non. Mais la drogue. Quand j'ai commencé à être exposé à certaines drogues et que j'ai vécu le fait que pour la première fois, ma tête arrête de spinner, arrête de m'attaquer, que j'ai la confiance puis le courage d'habiter mon corps pour la première fois, que j'ai la confiance et le courage de m'exprimer pour les premières fois, que ça me donne pas mal au cœur comme l'alcool. Il est arrivé comme un déclic qui a duré très longtemps et qui a été relativement dévastateur. Que je regrette pas du tout, pour plusieurs raisons. J'ai découvert qui j'étais avec ces expériences-là comme énormément. Je veux dire, c'est. Puis là, je veux faire attention, je ne suis zéro en train de promouvoir la drogue, mais j'étais tellement enfermé dans une cage barrée avec je sais pas combien de cadenas. Je pense que ça m'a aidé de me sortir au moins pour comme prendre une bouffée d'air. Quand je regarde mon adolescence, pour moi, j'étais en train de me noyer pendant des années. Donc, les drogues m'ont comme permis d'au moins ouvrir à une possibilité d'un répit quelconque. Le problème, évidemment, et s'il vous plaît, entendez-moi, surtout si vous êtes ado et vous êtes en train de le vivre, puis que vous entendez peut-être que la madame a dit qu'on devrait prendre la décision. Pas pantoute ce que je dis. Le problème, c'est que très rapidement, c'est devenu une béquille, mais une béquille, dans le sens que je ne pouvais plus rien faire. Et rendu à secondaire 5, j'avais un dealer qui venait me voir d'un poste. C'était grave et c'est arrivé vite. Et je me souviens pour certaines drogues m'être dit après peut-être trois essais, avec une clarté d'esprit très impressionnante, de me dire, bon, là j'ai un choix, soit je reprends cette substance une quatrième fois, ou je survis. Carrément. Il y a certaines substances qui venaient tellement parfaitement remplir le trou existentiel que je portais, que c'était clairement dangereux et j'allais y céder ma vie si je continuais. Et dans ces deux expériences-là où je me suis dit exactement la même chose, j'ai arrêté après trois fois. Et heureusement, c'est sûr que j'y laissais ma peau. Et à peu près à cet âge-là, dans cette période-là, c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, sais-tu que c'est tough vivre comme. Je regarde autour de moi, puis il me semble, il n'y a pas personne qui a l'air de rusher de même, là. Je marche dans les corridors, là, à l'école, le monde sourit, ils ont l'air d'avoir du fun, là. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est mal fait en moi, ou il y a quelque chose qui est brisé. Clairement, là. Parce que moi, pas pantoute, là. Je suis écœuré, je suis fatigué de me combattre contre quelque chose qui est en dedans de moi. Je dis, tu te bats contre ta tête à l'eau, là. J'étais fatigué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Et, tranquillement, pas vite, la pensée a commencé à venir. Ben, t'es peut-être mieux de pas être ici. T'es peut-être mieux juste dormir, enfin. T'es peut-être mieux de juste lâcher, baisser les bras, puis advienne que pourra. Là. Même si c'était pas nécessairement je m'enlève la vie demain. Là. Juste, garde, j'arrête d'étudier, puis ça va péter de ce bord-là, puis au moins les gens vont se rendre compte qu'il y a fil pas, clairement. Ou j'arrête de nager, ou je sais pas trop. Faire que j'arrête d'essayer de retenir cette espèce de volcan-là qui, clairement, est en train de gagner de toute façon. Puis cette pensée-là de pas je veux mourir, mais je veux partir, je veux que ça arrête, je veux dormir, je veux qu'on me lâche, je l'ai entendue pendant des décennies. Pas tout le temps, pas aussi fort d'une fois à l'autre, mais d'un sens, c'était là. Puis je vais être honnête avec vous, là, j'en étais rendu à un point, je dirais, vers pas mal plus tard, là, proche de la trentaine, à accepter ça. ça allait beaucoup mieux rendu là. Puis je me disais, OK, fait que moi, je suis fait de la sorte que, une fois de temps en temps, la pensée suicide, je l'appelais de même, là, quasiment, c'était quasiment affectueux là, comme nom, comme titre, la pensée suicide va venir me visiter. C'est comme ça. C'est comme ça tout le temps, donc c'est comme ça. Au moins, de me l'admettre, c'est déjà une bataille de moins. Pas fou. Et au moins de me l'admettre, j'ai pas besoin d'en avoir aussi peur. Je savais à ce moment-là que je passerais jamais à l'acte. D'ailleurs, j'avais des enfants à ce moment-là. Je vais vous en parler. Je vais vous parler de ce beau lien-là qui m'a aidé énormément. Alors, rebonjour. Si vous êtes encore là, en fait, vous m'impressionnez, de un. Merci beaucoup d'être resté avec moi ou en fait d'avoir tendu l'oreille pour ces nombreuses minutes déjà. Tel que j'ai mentionné au départ de l'épisode, c'est un épisode de présentation que j'ai divisé en deux. Donc, si vous êtes toujours intéressé, en fait, la deuxième partie, et je peux faire peut-être une parenthèse, la deuxième partie, tout s'allège. C'est là qu'on commence à parler de comment je suis arrivé à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus doux et facile, peut-être, comme épisode à gérer, ou même juste à écouter. Donc, vous devriez déjà avoir accès à cette partie dès lors. Si vous le voulez bien, en fait, moi aussi, j'aimerais bien vous connaître ou apprendre à vous connaître. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Tous vos commentaires, questions sont absolument les bienvenus. Je vais tenter de mon mieux d'aller les voir et d'y répondre. Et je vais vous offrir un épisode tout nouveau à chaque lundi matin qui va parler d'un peu de tout, de thérapie, de coaching, de choses que j'ai vues ou qui m'aident ou des trucs difficiles que je traverse en espérant pouvoir rejoindre d'autres gens qui, je sais bien, vivent jamais les mêmes choses, mais mon Dieu que ça se ressemble, là. Et que c'est... Encore là, je reviens au but premier du podcast, qui est tout simplement de faire face à ce qu'on vit ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de semaine et à bientôt.